J'aimerais avec vous lire deux passages. On va lire deux passages d'introduction pour le message de ce matin. Le premier passage se situe dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, verset 50. Bien sûr, ce verset 50 arrive en conclusion de tout un événement, d'une rencontre de Jésus avec une femme, celle qu'on appelle communément la pécheresse, mais qui n'est pas pécheresse, qui n'est pas pécheur. Et cette femme va venir dans la maison de Simon le pharisien, et là, elle va pleurer sur les pieds de Jésus. Cette femme, eh bien, va être pardonnée par Jésus, malgré les critiques qui sont contre elle. Eh bien, Jésus la pardonne et va lui dire ceci, verset 50. Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvée, va en paix. » On va lire un second passage dans Marc, chapitre 5, verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ici, Jésus va s'adresser à une femme encore, pas la même que tout à l'heure, c'est la femme, atteinte d'une perte de sang que Jésus va guérir. Et Jésus donc va lui dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il y a des similitudes dans ce que Jésus dira à la femme pécheresse dans Luc chapitre 7 et à celle-ci. Et ce que j'aimerais retenir ce matin, c'est cette expression que Jésus adresse à l'une comme à l'autre, cette parole « va en paix ». Va en paix. J'aimerais ce matin parler de cela. Si j'avais un titre à donner à mon message de ce matin, et vous comprendrez au cours du message pourquoi je donne ce titre, ce serait un engagement pour la paix. Un engagement pour la paix. La paix, dans ce monde, se fait rare. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. J'allais dire que si on regarde l'histoire de l'humanité, depuis que le monde est monde, comme on dit, eh bien, il y a des guerres partout. Depuis la chute d'Adam et Ève, lorsqu'on lit la Bible, on voit que le trouble est venu, que les guerres sont venues, que des violences sont venues. Peu après la chute, déjà, un premier homicide, Caïn va tuer son frère Abel. Et puis, ça va aller en augmentant, la violence va aller en augmentant, et on sait que à l'époque de Noé, la terre était remplie de violence, les hommes et les femmes étaient devenus méchants. L'humanité est remplie de méchanceté à ce moment-là. Il y a le déluge et puis après ça va recommencer. La violence va regagner eh bien, la terre, le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis lors, c'est ainsi. Il y a parfois des temps d'accalmie, des régions dans ce monde ou des pays qui connaissent des temps plus ou moins calmes. Dans l'histoire, il y en a eu, mais ça ne dure jamais vraiment trop longtemps, quelques décennies parfois, mais les querelles, les guerres recommencent. Non seulement elles sont là, c'est une réalité entre pays, entre nations, entre peuples, entre ethnies, mais il y a aussi bien des troubles, bien des guerres, bien des violences, bien des méchancetés au sein des familles. Y a-t-il la paix ? Dans une famille, oui, bien sûr, parfois, il y a la paix, et c'est précieux. Il y a aussi parfois des tensions, des disputes, des guerres entre collègues, entre voisins, les querelles de voisinage. Et puis, et surtout, comment ne pas parler d'une guerre qui nous touche tous, qui est à l'intérieur de notre cœur. Avons-nous la paix du cœur? Avons-nous la paix du cœur? Pas toujours. Il faut le reconnaître que nous n'avons pas toujours cette paix et du cœur. Et il nous faut vraiment... nous approcher du Seigneur, de celui qui est appelé le Dieu de paix, le Prince de la paix, pour avoir eh bien, ce temps de paix dans nos cœurs. Il est celui qui vient dans nos cœurs et qui établit la paix, parce qu'il élimine de notre vie bien des choses. Son sang nous purifie de toute mauvaise chose. Il veut nous purifier de toute vengeance, de toute rancune qui amplifie ce phénomène de méchanceté, de violence et qui nous ronge à l'intérieur de nous-mêmes. Aussi, face à ce constat qui nous montre une réalité que la paix se fait bien rare, naît dans nos cœurs une aspiration à la paix. On se dirait, mais quand je serai à la retraite, je serai tranquille. Quand je serai à la retraite, je serai en paix. Qu'on me laisse tranquille. Alors, effectivement, il y a moins de responsabilités une fois à la retraite. Mais est-ce que la retraite est le remède pour avoir la paix du cœur? Est-ce que les retraités pourraient confirmer? Il y a toujours des tracasseries, hein, n'est-ce pas? Il y a toujours des tracasseries. Et puis ça ne règle pas les problèmes qu'il peut y avoir dans les familles, ça ne règle pas les problèmes qu'il peut y avoir avec les voisins, ça ne règle pas certains problèmes qui est là. Donc, oui, ça apporte, bien sûr, il y a moins de responsabilité, et là, il y a peut-être un peu un soulagement, mais néanmoins, cette paix, elle ne vient pas par la cessation d'activité. L'aspiration à la paix est très forte. Il y a des salons de bien-être partout aujourd'hui, vous avez remarqué ? Il faut être zen. Ouais, mais être zen, pas facile, hein. Donc beaucoup aspirent à la paix. C'est un souhait, c'est un vœu, voire une prière. Mais beaucoup de désillusions, beaucoup de frustrations et de vaines recherches qui nous épuisent. Dans la culture sémite orientale, il y a une expression qui est lourde de sens quand on veut se saluer. Nous, on se dit bonjour. Bon, là-bas, c'est shalom. Vous savez ce que ça veut dire, shalom. Et quand Jésus dit « va en paix », il emploie une expression usuelle, courante, dans ces pays-là. C'est comme dans les pays arabes, assalamu alaikum, vous connaissez, hein. On répond à alaikum salam. Je ne vais pas vous faire un cours d'arabe, mais ça veut dire que la paix soit avec toi. D'accord ? Que la paix soit avec toi. Il se salue ainsi. Il se salue ainsi dans cette culture sémite orientale, dans tous ces pays-là. Et plus qu'un souhait, plus qu'un vœu, à l'origine, cette salutation a valeur d'un engagement. Alors bien sûr, maintenant, quand dans ces pays-là, ils se saluent par shalom ou assalam alaikum, c'est comme notre bonjour, c'est une formule de politesse. Mais néanmoins, à la base, cette expression qui, bien sûr, comporte un souhait, un vœu qu'on adresse à la personne, va plus loin que ça, puisque c'est un engagement. La personne qui souhaite ainsi la paix, qui dit shalom, s'engage à ce que la personne soit effectivement dans le shalom, dans la paix. Cette notion de shalom, cette notion de paix en hébreu, est non seulement l'absence de conflit, mais pas uniquement. Elle revêt l'idée d'harmonie, de plénitude, de bonheur, de prospérité, d'équilibre et de justice. On voit que c'est bien plus que cette paix que nous pouvons concevoir. Va en paix. Va en paix. C'est donc pas une simple salutation, une simple formule de politesse que Jésus va adresser à ces femmes, Lorsqu'il leur dit « va en paix », elles comprennent ce que Jésus veut dire parce qu'elles sont imprégnées de ces paroles-là, parce qu'elles savent ce que ça veut dire, ce que cela implique, ce que cela comporte. Elles savent ce que Jésus a fait pour eux. Elles sont encore dans une forme d'inquiétude, mais en entendant « va en paix », il y a quelque chose qui va se passer dans son cœur parce qu'elles comprennent ce que Jésus a à leur dire à ce moment-là. Il n'y a pas de paix, on ne peut pas souhaiter la paix à quelqu'un sans qu'il y ait un engagement. Et j'aimerais bien sûr insister là-dessus parce que le premier à nous donner l'exemple, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur nous souhaite la paix. Le Seigneur, il veut la paix. Mais en nous souhaitant la paix, en voulant notre paix, il s'engage à faire quelque chose pour qu'effectivement nous soyons en paix. Ces expressions, nous la retrouvons dans différents textes de la parole de Dieu. Parfois, il y a quelques nuances, mais nous la retrouvons dans l'Ancien Testament et nous la retrouvons dans le Nouveau Testament quand, et on en a fait une chanson pour Noël, les anges sont venus auprès des bergers, que le premier ange leur a révélé la naissance du Messie. Il y a eu après une multitude d'anges qui ont chanté « Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre » parmi les hommes qui l'agréent. Ce n'est pas simplement une formule. On la chante comme ça, ça fait joli à Noël. Mais ce n'est pas simplement une formule de politesse, ce n'est pas simplement un vœu. Mais cela arrive dans l'accomplissement de ce que Dieu a fait, dans l'accomplissement d'un engagement de Dieu. Il a envoyé le Messie, le prince de la paix, par qui nous avons la paix. Car en Jésus, Dieu a réconcilié tout avec lui-même, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre, en faisant et en établissant la paix par lui, par le sang de la croix, est-il écrit dans les Colossiens. D'ailleurs, nous avons vu aussi, nous faisons l'étude de l'Épître aux Éphésiens les mardis soirs actuellement, et nous avons vu la même chose. Il a établi la paix, le mur de séparation a été enlevé, l'inimitié a été enlevée, est-il écrit. Et il a établi la paix par la croix. Alléluia. Donc on voit que lorsque Dieu souhaite quelque chose, lorsque Dieu forme un projet de paix, il fait ce qui est nécessaire pour que la paix soit véritable. On cite souvent Jérémie le prophète qui dira dans Jérémie 29, verset 11, eh bien c'est cette parole de Dieu qu'il a reçue dans son cœur, que Dieu forme des projets de paix sur toi. Quand on lit bien le texte, ce n'est pas simplement, j'allais dire, un vœu que Dieu a fait, mais il a fait ce qui est nécessaire pour que ces projets de paix soient bel et bien une réalité. Et ainsi, cela rassure le cœur, parce que Dieu, non seulement il dit, mais il fait. Et le cœur peut être tranquille. Oui, Dieu s'est engagé. Dieu a fait quelque chose pour que nous soyons en paix. N'est-il pas écrit encore par ailleurs que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui? Ésaïe 53, verset 5, pour ceux qui prennent des notes. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Donc oui, Dieu veut notre paix. Il veut notre bonheur. Alléluia. Et il accomplit quelque chose. Il s'engage à ce que cette paix soit bien concrète, elle se réalise dans la vie de chacun, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, et ceux qui l'agréent, comment peut-on être agréable à Dieu, si ce n'est par la foi? Nous recevons la paix que Dieu eh bien, a à nous donner, que son nom soit glorifié. Revenons à nos deux femmes dans les évangiles. Il y a une femme pécheresse connue, la réputation, une femme de mauvaise vie. Et cette femme de mauvaise vie vient chez quelqu'un de bien, un pharisien. Elle va chez quelqu'un qui est respecté et ce quelqu'un a invité Jésus. Cette femme va venir là dans ce lieu où Jésus est à table avec ce pharisien. Et là, elle va pleurer à ses pieds et elle va mouiller ses larmes mouiller ses pieds de ses larmes, et Jésus va lui adresser une parole suite à une critique que ce pharisien a formulée dans son cœur, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Cet homme qui a les apparences d'être bien, et en fin de compte dans le mépris. Et nous savons que le mépris amène beaucoup de tensions. Le mépris amène beaucoup de querelles, le mépris amène beaucoup de mauvaises choses. Voilà une femme qui a vécu dans le rejet, voilà une femme qui n'est pas, je veux dire, acceptée, qui n'est pas aimée par le reste de la population parce qu'elle est une femme de mauvaise vie. Ça nous fait penser à un autre texte des Évangiles, lorsque ils ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère, ils vont la porter à Jésus. Moïse nous dit dans la loi de lapider de telle femme. Justice. On reparlera de la justice après. C'est justice. C'est ce que la loi disait. Mais Jésus va plus loin que la loi. Il va plus loin que la loi. Il le dit souvent. Œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Il y a ce que la loi dit, mais il y a ce que Jésus dit. Il va plus loin que la loi. Il nous invite même à surpasser la justice des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 5, verset 20, on voit Jésus nous invite à ce que notre justice surpasse celle des pharisiens. Parce que celle des pharisiens était basée sur les apparences. Ils utilisaient la loi de Moïse quand ça les arrangeait bien. En fin de compte, c'est ça. Mais moi, je vous dis. Jésus a dit, mais moi, je vous dis. Alors, le mépris de cet homme vis-à-vis de cette femme est réel. Et Jésus va lui parler d'amour, Jésus va lui parler de pardon. Cette femme est pardonnée. Jésus va lui adresser un pardon. Cette femme est pardonnée. Cette femme est pardonnée, elle a entendu une parole de pardon de la part de Jésus. Elle peut être en paix parce que ses péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de culpabilité à avoir parce que ses péchés sont pardonnés. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a toujours des gens bien pensants qui peuvent vous rappeler votre faute. Oh, mais tu as vécu toutes ces années dans le péché, tu ne vas pas croire que tu vas être réhabilité comme ça, hein. Il y a toujours des gens bien pensants pour vous enfoncer. Et là, comment avoir la paix du cœur quand il y a toujours ainsi des paroles qui vous rappellent ce que vous avez fait, qui viennent vous enfoncer? Celui qui est au-dessus de tout, celui qui a toute autorité, adresse à cette femme une parole et nous l'adresse en même temps. Quoi que nous ayons pu faire, Jésus est celui qui nous pardonne. Puissions-nous saisir ce pardon et ce va en paix de Jésus. Va en paix. Le grand juge, le juge suprême te dit va en paix. Parce que lui, il a fait ce qui est nécessaire. Et personne, quelles que soient leurs paroles, ne pourra changer le jugement de Dieu qu'il a prononcé sur nous. Si le jugement de Dieu, c'est un pardon, s'il nous a absous, rien ne pourra changer la position du Seigneur. Va en paix. Alléluia. Que le Seigneur nous libère. Qu'il libère nos cœurs de ces craintes qui sont dues à la culpabilisation. Qu'il libère nos cœurs de ces craintes qui sont dues à des paroles que nous pouvons entendre et que la paix de Dieu s'installe dans nos cœurs. La seconde femme, c'est la femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, elle est malade. On n'a pas lu tout le texte, mais elle a été vraiment voir tout un tas de médecins, tous les médecins de l'époque, tous les spécialistes. Il nous a même dit qu'elle a dépensé tout son argent dans les médecins, et elle n'était pas guérie, même son état allait en empirant, il n'y avait pas de remède pour elle à l'époque, pas de remède. 12 ans de maladie, comment cela est arrivé, bon, on ne sait pas trop, on ne sait pas, peut-être c'est suite à un accouchement qui s'est mal passé ou suite à une maladie, enfin bref. Et cette femme vit difficilement, en plus c'est une perte de temps, ça doit fatiguer son corps, et il faut savoir aussi que les femmes qui étaient atteintes de perte de sang étaient considérées comme des impures. C'est la réalité. Elle était rejetée, elle était au banc de la société. Qu'avait-elle fait de mal? Rien, elle était juste malade. Mais c'est ainsi qu'on traitait les femmes à ce moment-là. C'est ainsi que les femmes étaient traitées. Et là, cette femme va, par la foi, briser les convenances de l'époque. Elle désire tellement être guérie qu'elle apprend que Jésus est là. Et si je puis seulement toucher le bord de ce vêtement, je serai guérie. Elle va briser les convenances de l'époque, la bienséance. Elle n'aurait pas dû se trouver dans la foule, mais elle est là. Et elle, l'impur, va toucher celui qui est pur. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais elle va être guérie de son mal. Elle va être guérie de son mal. Jésus a dit, mais qui m'a touché? Et là, elle est toute tremblante. Elle est toute tremblante, elle est effrayée. Parce qu'elle a fait quelque chose qu'on n'aurait dû pas faire, qu'une femme atteinte d'une perte de sang n'aurait dû pas faire. Déjà se trouver au milieu de la foule, elle, l'impure, et toucher Jésus. Elle lui dit toute la vérité et Jésus va lui dire, va en paix. Alléluia. Jésus va de les... Vous voyez, Jésus a fait quelque chose pour elle. Son « va en paix », ce n'est pas une vaine parole, un vœu comme ça qui est fait à la légère, une simple formule de politesse. Il vient de faire quelque chose pour elle, il l'a guérie de son mal. Mais elle, elle est toujours dans, si elle, son corps est guéri, elle est toujours dans ces pensées-là de rejet, qu'elle ne peut pas être au milieu des autres, toujours effrayée, toujours dans la crainte de faire quelque chose qui n'est pas dans la convenance de l'époque. « Va en paix ». Alléluia. Le Seigneur, il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. La paix de Dieu, elle surpasse la compréhension de Dieu. Notre compréhension à nous. Elle dépasse notre intelligence. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Parce que c'est quelque chose qui est là dans le cœur. Dieu a fait quelque chose. Il a adressé une parole à notre cœur et il a fait quelque chose pour nous. Il s'est engagé. Et cette paix de Dieu qui dépasse l'intelligence humaine est quelque chose de bien réel. Va en paix. Ce n'est pas simplement des paroles que Dieu nous adresse, mais il s'engage à notre paix. Pour ce qui est de nous, nous souhaitons la paix. Oui, on aspire à ce que les uns et les autres soient en paix. Est-ce que, pour nous, ça serait simplement une formule de politesse chrétienne? Parce qu'on a nos formules de politesse chrétienne. Ou est-ce que vraiment, nous faisons tout pour que la paix s'établisse? Parce que va en paix, ou shalom, comme je le disais, ce n'est pas simplement un souhait, ce n'est pas simplement une formule de politesse. Ça veut dire, à la base, selon sa définition, que vraiment, on s'engage à faire quelque chose. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, que ce soit Ézéchiel ou que ce soit Jérémie, le Seigneur, au travers de ses prophètes, va s'en prendre à quelques-uns des faux prophètes qui proclamaient la paix alors qu'il n'y avait pas la paix. Un exemple dans Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13. On retrouve des passages quasiment similaires aussi dans le livre du prophète Jérémie. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant « paix » quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Voilà. On pourrait continuer, hein. Alors qu'il n'y a point de paix. On peut dire à quelqu'un, sois en paix, mais s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas S'il n'y a pas le, vous savez, s'il y a pas le moyen d'être en paix, on peut même rajouter à sa frustration. Si on dit à quelqu'un, mais sois en paix, et que il n'y a rien de concret qui puisse établir la paix dans son cœur, on peut même l'enfoncer à ce moment-là. Jacques dira dans son épître quelque chose de fort intéressant parce qu'il reprend la même expression dans Jacques chapitre 2. Jacques est vraiment... s'adresse ici à des gens qui comprennent bien la culture sémite orientale, la culture juive. Il s'adresse à ces 12 tribus dans la dispersion qui ont connu Jésus. Donc, cette expression qu'il emploie, ils savent ce que ça veut dire. Et par rapport à tout ce que je viens de dire, je pense aussi que nous avons compris ce que ça veut dire. Jacques leur dira, verset 15, on va lire chapitre 2, verset 15, ouais, même le verset 14, allez, à partir du verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, et à quoi cela sert-il ?» Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, elle est toujours concrète. Elle n'est pas abstraite. Elle n'est pas virtuelle. On a ici l'exemple d'un frère ou d'une sœur qui manque de tout. Tellement qu'ils sont nus, ils n'ont même pas de vêtements. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de la nourriture. Et là, il rencontre un autre. Allez, va en paix. Va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi. Dieu va pourvoir à tes besoins. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Donc on voit ici vraiment que Jacques, ici, voilà, donc, nous interpelle, il va interpeller ses lecteurs par le Saint-Esprit, il nous interpelle aussi par une expression qui est vide de sens, parce que si c'est vraiment ça, si on dit à quelqu'un « va en paix », c'est qu'on a fait quelque chose pour lui. On peut effectivement dire à quelqu'un « va en paix », ils auraient pu dire à cette personne « va en paix » s'ils avaient donné des vêtements à cette personne, si... ils avaient donné de quoi manger à cette personne. Là, c'est trop facile. Ce va en paix, c'est aller en paix, là, c'est un petit peu, laisse-moi tranquille. Hein. Ou, j'allais dire communément, excusez-moi l'expression que je vais employer, fichez-moi la paix. C'est un peu ça. Hein. Jacques, ici, nous touche du doigt par le Saint-Esprit que vraiment, faut que nos paroles aient du sens et qu'elles aient du poids. Parce qu'on pourrait dire à quelqu'un, va en paix, rassasie-toi, c'est une parole de foi, ça. Mais des paroles de foi comme ça, pour moi, ce n'est pas des paroles de foi. C'est rien, c'est des paroles en l'air. Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez. Mais il faut que ça soit concret, parce que bien ces personnes-là, Dieu les a peut-être mises sur notre chemin pour que justement nous puissions les bénir, ces personnes. Jacques va parler de la paix une deuxième fois dans son épître. Cette épître de Jacques, elle est tout à fait remarquable. Il en parle au chapitre 3, à partir du verset 13, j'aimerais lire avec vous, à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, j'aimerais parler de la justice maintenant. La justice est intimement liée à la paix. On a vu tout à l'heure, premièrement déjà, que nos paroles, il faut qu'elles aient du sens. Si on croise quelqu'un qui manque de tout et qu'on lui dit simplement, eh ben, shalom, hein, ou voilà, passe une bonne journée, mais voilà, il faut que ce soit concret. Mais là, on voit que Jacques parle de la justice et cette expression en hébreu, dans le mot shalom, il y a cette notion de justice aussi. Quand on lit l'épître de Jacques, on voit qu'il parle beaucoup d'injustice, injustice liée à l'exploitation sociale. À un moment donné, d'ailleurs, il va s'en prendre aux riches. Le mépris du pauvre, dans le début du chapitre 2, il y a le mépris du pauvre. Injustice aussi basée sur des apparences liées à des intérêts pécuniaires, liés à des intérêts personnels. Il va parler aussi de certaines choses qui vont faire qu'il y a des luttes. Il va parler de certaines passions qui sont liées vraiment à la satisfaction personnelle, à l'égoïsme. Et tout cela provoque beaucoup d'injustice. C'est de l'injustice qui provoque du trouble au milieu de ces personnes. Mais la vraie justice, celle qui vient de Dieu, elle est toujours liée à la paix et elle produit la paix. Elle produit la paix. Et nous le voyons bien aujourd'hui encore, les injustices produisent bien des querelles et des disputes. Dans Ésaïe chapitre 32, verset 17, l'œuvre de la justice sera la paix. Le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ça, c'est encore un verset que je voulais citer pour montrer le lien évident entre la justice et la paix. Seulement, la justice telle que l'homme parfois l'utilise ne produit pas toujours la paix. Pour revenir aux pharisiens, ils étaient à cheval sur œil pour œil, dent pour dent. On pourrait dire c'est justice. Sauf qu'il y a les paroles de Jésus. Sauf que cette justice-là était remplie de désirs de vengeance, de désirs de se faire justice nous-mêmes, remplie de haine, d'orgueil, de pouvoir asseoir une autorité qui n'est qu'humaine. Et Jésus, on comprend pourquoi il dira, voilà, vous avez entendu dire qu'il a été dit, œil pour œil, c'est justice, mais la justice de Dieu, elle va plus loin, parce que si ton ennemi a faim, tu ne vas pas lui dire simplement, allez, va en paix, là, laisse-moi tranquille. Hein. Mais c'est de la justice de Dieu de lui donner à manger. C'est de la justice de Dieu de pardonner. C'est aussi de la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu surpasse celle des hommes. C'est de la justice de Dieu d'aimer ses ennemis. Et quand vous aimez vos ennemis, quand vous pardonnez à ceux qui vous maltraitent, ça calme beaucoup les choses. Ça établit la paix. Oui, notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Alors parfois, nous aurions le désir que Dieu fasse justice. Et peut-être même, on prie le Seigneur. Seigneur, fais-moi justice. Mais quand on dit fais-moi justice, il y a quand même, quelque part, dans nos cœurs, un désir de vengeance. Et comme on ne peut pas se venger sur nous-mêmes, ben on demande à Dieu de nous venger. Sauf que ça ne marche pas forcément comme ça. Notre justice doit être dépourvue de haine. Notre justice doit être dépourvue de rancune, dépourvue d'orgueil, dépourvue de tout désir d'écraser les autres. Et de la justice de Dieu, de pardonner. Parce qu'il a accompli ce qui était nécessaire, comme c'était sa justice aussi, de pardonner à cette femme pécheresse qui venait repentante auprès de lui et qui l'aimait de tout son cœur. Alors oui, nous voulons être des artisans de paix. Nous voulons procurer la paix, comme il est écrit dans une béatitude, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et on sait qu'un fils, il ressemble à son père. Et c'est pour cela que nous sommes appelés fils de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu des paix qui établit la paix. Alléluia. Que Dieu soit glorifié dans nos cœurs. Et j'aimerais vraiment que nous puissions ensemble rechercher cette paix qui vient du cœur de Dieu. Et en nous-mêmes, se placer devant le Seigneur pour savoir où nous en sommes dans nos intentions les uns vis-à-vis des autres. Lorsque nous nous saluons, lorsque nous avons des discussions, vraiment, puissions-nous rechercher la paix comme cela est écrit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide à partir en paix. Que son nom soit glorifié. On va prier ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous adresses une parole et nous te bénissons pour toutes ces fois que tu as mis la paix dans nos cœurs. Alors qu'il y avait du trouble et toutes sortes de mauvaises choses, Seigneur, toi tu es venu. Toi tu es monté sur la croix et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Tu as pris notre culpabilité, tu as pris nos péchés. Tu as été condamné à notre place et maintenant nous pouvons bénéficier du plein pardon, de la réhabilitation. Nous pouvons bénéficier de ta guérison, cette guérison du cœur. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis chacun de mes frères et sœurs ici présents. Tu connais ceux qui sont peut-être troublés en ce moment par toutes sortes de situations. Et nous voulons vraiment te prier pour que ta paix divine soit dans leur cœur. Béni sois-tu, Jésus. Tu as tout accompli à la croix. Toi, tu as déjà fait ce qui est nécessaire pour notre paix. Béni sois-tu, Jésus. Amen.